Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Qui n'a jamais eu le sentiment de s'être fait avoir en achetant quelque chose dont il n'avait pas vraiment besoin, en acceptant de rendre un service alors qu'il avait bien mieux à faire, s'entendre répondre oui alors que la logique aurait voulu que l'on dise non. Parfois la façon de nous présenter les choses suffit à guider nos décisions, à influencer nos choix. De nombreuses expériences en psychologie sociale montrent que nous sommes beaucoup plus manipulables que ce que nous pensons. Et notre libre arbitre dans tout ça, invité de cette Tête au Carré, Robert Vincent Joule, professeur en psychologie sociale à l'université Aix-Marseille. Il est l'auteur, avec le psychologue social Jean-Léon Beauvois, de l'ouvrage « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » aux presses universitaires de Grenoble. Un livre qui fait aujourd'hui référence dans le domaine. Bonjour Robert Vincent Joule.
Bonjour et merci de votre invitation.
Vous allez nous expliquer ces techniques de manipulation utilisées quotidiennement par les professionnels comme les amateurs, consciemment ou non d'ailleurs, techniques au nom de code bien précis comme l'amorçage, l'étiquetage ou encore le pied dans la porte. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Cette Tête au Carré est réalisée par Lola Costantini et c'est Pierre Gaufre qui l'a préparée.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Robert Vincent Joule, à en croire votre petit traité de manipulation, nous sommes tous, tour à tour, manipulateurs et manipulés. Ça fait partie en fait des règles du jeu de la vie en société ?
Ça fait partie de la vie sociale. Hein. Je crois que la vie serait bien triste si on ne se laissait pas de temps à autre influencer, et si on n'avait pas surtout la possibilité d'influencer les autres, ouais. Bien entendu. Oui.
Finalement, il faut voir la manipulation comme une alternative au coup de force, à l'abus de pouvoir. C'est une façon assez douce de faire à l'autre ce qu'on a envie qu'il fasse.
Oui, la manipulation réussit très souvent là où l'information et l'argumentation échouent. Mais là, je n'aurai pas le temps malheureusement de l'expliquer. Mais il y a des tas de recherches qui montrent qu'il ne suffit pas de modifier les idées pour modifier les comportements.
Ouais, on aura plein d'exemples pour le montrer dans cette émission. Alors, des petites choses, par exemple, pour voir un peu le genre de manipulation dont on parle dans cette émission, des études ont montré que si on demande quelque chose à quelqu'un en lui touchant le bras, le résultat n'est pas du tout le même que si on ne le touche pas.
Ah oui, c'est vraiment extraordinairement passionnant. Alors, je prends juste un exemple. À l'entrée d'un magasin d'alimentation, une hôtesse vous remet une brochure présentant les produits en promotion et elle va toucher une personne sur deux d'une certaine façon que je décrirai après. On suit dans le magasin, pendant leur course, les personnes qui ont été touchées ou pas et on s'aperçoit que les gens qui ont été touchés passent deux fois plus de temps dans le magasin. Les gens qui ont été touchés achètent davantage. 25% de plus. Panier moyen, 25% de plus. Et si, alors là c'est le plus extraordinaire, si on leur demande lorsqu'ils se retrouvent dans la galerie marchande comment ils trouvent le magasin, ils portent une appréciation plus positive sur le magasin s'ils ont été touchés que s'ils n'ont pas été touchés.
Est-ce qu'on peut l'expliquer ça ? Est-ce qu'on comprend pourquoi ?
Oui, on peut l'expliquer. Il y a des tas d'explications. La plus, on va dire, celle qui fait un peu consensus dans la communauté, c'est le toucher provoquerait une humeur positive.
C'est vrai dans toutes les cultures ou finalement la psychologie sociale
Le toucher aussi, traverse toutes les cultures, aussi ouais. Étonnant que ça puisse paraître. On a fait des thèses interculturelles qui montrent que c'est pareil, quelle que soit la culture.
Autre technique d'influence, là aussi très légère, qu'on a finalement tous pratiquée sans trop le savoir, dire à quelqu'un « Tu es libre d'accepter ou de refuser, fais comme tu veux, je te laisse seul juge. » Quelles conséquences ça a ?
Oui, c'est également une technique très étonnante que l'on doit d'ailleurs à des Français. Je donne volontiers leur nom, c'est Nicolas Guéguen et Alexandre Pasquale. Regardez, vous attendez le bus et vous demandez à quelqu'un qui attend avec vous « Vous n'auriez pas un peu de monnaie pour me dépanner ? J'ai oublié mon porte-monnaie, il faut absolument que je prenne le bus. Un ticket serait l'idéal, mais sinon un peu de monnaie, je peux demander le complément à quelqu'un d'autre. » Et une fois sur deux, vous touchez votre interlocuteur. Constat, vous ne touchez personne. 10% seulement vous aide. Maintenant, si vous touchez la personne, c'est 47% des personnes qui vont vous aider. Et quant au montant moyen, si vous ne les touchez pas, vous obtenez la moitié de ce dont vous avez besoin, 50 centimes d'euros. Mais si vous les touchez, vous obtenez en moyenne 1 euro. Vous voyez la force.
Là, c'est même au-delà de si vous les touchez ou si vous les touchez pas. C'est si vous leur dites, vous êtes libre ou non d'accepter.
Et on a les mêmes effets avec le vous êtes libre. C'est-à-dire une fois sur deux, on leur dit, évidemment, vous êtes libre de m'aider ou pas. Une fois sur deux, on ne leur dit pas. Ouais. Et vous avez les mêmes résultats.
Alors, il existe des techniques, on va dire, un peu plus sophistiquées, comme celle du, du pied dans la porte. Alors on va peut-être prendre un peu plus de temps pour la comprendre. Il y a une expérience assez amusante, là encore en tout cas édifiante, qui a été faite. On a demandé aux gens de mettre un panneau pour la sécurité routière dans leur jardin. Ça implique quand même, ça prend de la place, c'est pas forcément joli. On imagine que c'est pas facile d'accepter forcément. Et là encore, la façon dont on le demande, le taux d'acceptation va être très différent.
Tout à fait. Là, c'est une recherche américaine. C'est même la première recherche qui a montré l'efficacité du pied dans la porte. Obtenir peu avant de demander davantage. Vous avez raison. Si on sollicite directement des résidents pour en leur demandant de bien vouloir accepter qu'on mette chez eux un panneau, même si on rajoute, pas pour toute la vie, mais avec la pose et la dépose, il faut qu'on puisse le laisser une quinzaine de jours, la probabilité qu'on vous dise oui est relativement faible, 16%. Maintenant, on peut s'y prendre autrement. Au lieu de demander aux gens de mettre directement leur panneau, on va leur demander un acte beaucoup moins coûteux. En l'occurrence, mettre un autocollant, 3 cm sur 4. Pour la même cause, la prudence au volant. Et ensuite, dans cette recherche, une dizaine de jours plus tard, on leur demande de mettre le panneau. Cette fois, c'est plus 16%, mais 76%, 4 fois plus. Ça tient à quoi ? À rien. Au fait d'avoir été amené, par les circonstances, préalablement, à réaliser un petit acte si peu coûteux que personne n'a jamais refusé de le réaliser. Ça, c'est un pied dans la porte avec une demande explicite. On veut que les gens mettent le panneau, on leur demande de mettre le panneau. Mais ce qui est remarquable avec ce pied dans la porte, c'est que même lorsqu'on ne demande rien, on peut obtenir les effets que l'on recherche. Et là, je voudrais vous montrer comment on peut rendre les gens honnêtes dans la rue en utilisant un pied dans la porte avec demande implicite. Alors, venez avec moi à Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence. Vous imaginez la lumière, les sons terres. Et là, voilà quelqu'un qui est le témoin de la perte d'un billet de banque. En fait, c'est un expérimentateur qui sort son portable, mais la personne ne peut pas savoir qu'il s'agit d'un expérimentateur, et sortant son portable, laisse tomber un billet de 10 euros. On observe comment réagit la personne qui en est le témoin. J'étais triste de constater qu'à Aix-en-Provence, seulement 20% des gens ont le bon comportement, le comportement socialement utile. Monsieur, vous avez perdu
un billet.
Avertir
de
la personne
le
de
billet
sa perte.
À la personne.
Alors si on fait 100 moins 20, ça veut dire que dans ma ville, que j'aime beaucoup, ça fait 80% pour faire quoi ? Ralentir, s'arrêter, parfois mettre le pied sur le billet, on n'est jamais trop prudent. Attendre le temps qu'il faut, s'assurer que personne ne nous voit, regarder devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, si toutefois quelqu'un était au balcon. Et lorsque j'ai la certitude que personne ne me voit, évidemment, je vais prendre le billet. 20%, ça ne me plaît pas. Question, comment augmenter la probabilité de voir les gens se montrer honnêtes dans cette situation-là ? Regardez comme c'est simple. Préalablement, au moment où la personne va prendre la ruelle, un Anglais lui demande un renseignement, le cours Mirabeau. Évidemment, la personne va lui expliquer le cours Mirabeau. Mais elle n'a pas dit, si vous m'expliquez, je vous donne ma montre. Elle n'a pas dit, si vous ne m'expliquez pas, je vous donne deux gifles. Pas de raison. Pas de promesse de récompense. Pas de menace de punition. Une petite lampe s'allume. Tu es serviable. Sinon, pourquoi elle l'aurait fait ? L'Anglais part dans la direction indiquée, la personne prend la ruelle. Et un peu plus loin, l'expérimentateur sort son portable, perd un billet de banque. Cette fois, c'est plus 20, mais 40%. Mais on peut faire infiniment mieux, il suffit d'augmenter le coût.
Alors, on va écouter justement cette petite discussion anodine qui peut faire basculer les gens dans l'honnêteté. Parce que vous avez fait des petites vidéos qu'on a retrouvées sur votre site. Voilà comment un comportement peut changer avec une discussion en apparence des plus simples.
Pardon mademoiselle.
Oui.
Je m'excuse, je suis un petit peu perdu. Je cherche la place Stanislas.
Voilà, c'est tout ça. Vous allez juste contourner la cathédrale. Sur votre droite, vous aurez des arcs. Et ça sera à droite.
Après les arcs, je vais à droite.
Après les arcs, à droite. Vous l'avez
vous êtes
loin.
Très gentil. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous.
Merci.
Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Scène en apparence toute simple. Et dans ce cas-là, combien de personnes
voilà, mais là, en plus, il y a un étiquetage. Hein. Ouais. Alors, je reprends le fil de mon propos. On peut rendre l'acte préparatoire plus coûteux. L'Anglais peut demander à la personne de répéter. Si elle répète, c'est plus 40, mais 55%. L'Anglais peut demander à la personne, en rendant le service plus coûteux, de l'accompagner sur une cinquantaine de mètres. Tout le monde doit le faire. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner un Anglais sympathique comme tout, lorsqu'on n'est pas pressé, sur une cinquantaine de mètres pour le mettre dans la bonne direction ? Je dis bien, tout le monde doit le faire. Dans ce cas, 70%, vous voyez, 20 40, 55, 70. Mais si en plus, comme dans l'exemple que vous avez pris, l'anglais dit « j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de serviable comme vous », là, la probabilité va arriver à 90%. Parce que précédemment, la lampe s'allumait toute seule. La personne se disait « je suis serviable ». Mais là, c'est l'anglais qui allume le feu, en quelque sorte, en mettant dans son univers cognitif « serviable ». Et jamais quelqu'un a dit « non, je suis une ordure ». Dans la personne arrive avec cette lampe qui brille « tu es serviable », elle voit quelqu'un qui perd un billet de banque, 90%. Vous voyez, vous passez de 20 à 90%, ça tient à quoi ? À rien, pas à la personnalité des gens, mais aux circonstances dans lesquelles on a su les placer.
D'accord. Donc dire à quelqu'un du bien de lui, ça le pousse à adopter ensuite, par la suite, ce comportement positif et vertueux.
Tout à fait. Là, c'est un étiquetage en renseignant le trait de personnalité dont on attend évidemment des effets sur le comportement.
On s'intéresse aux études de psychologie sociale sur les techniques de manipulation dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Kelly, Watch the Stars sur France Inter dans la tête au carré, R.
Pour moi, l'arme la plus dangereuse du monde, c'est le cerveau. Quand on est très intelligent, on peut faire mal. Quand on est bête, on peut souffrir. Quand on est normal, on cherche même pas à comprendre. Mais quand on est malin et qu'on a compris le fonctionnement d'un individu lambda, même intelligent, je parle du système neurologique là. Alors je crois qu'on a tout compris. est que tu peux retourner un cerveau dans tous les sens. Jusque dans la troisième dimension. Voire la quatrième, si c'est pas la cinquième. L'arme la plus dangereuse du monde, c'est le cerveau. Un point, c'est tout.
Extrait du film « Je compte sur vous » avec Vincent Elbaz, réalisé par Pascal Elbé. Alors là, nous avions affaire à une manipulation grave dans le but d'escroquerie dans le cas de ce film. Mais nous, cet après-midi, nous nous intéressons à des petites manipulations plus douces, des manipulations du quotidien, avec Robert Vincent Joule, professeur de psychologie sociale, auteur avec Jean-Léon Beauvois de « Petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Un livre publié pour la première fois en 1987, qui a été augmenté, réédité entièrement, réécrit en 2002 puis en 2014, et il compte aujourd'hui plus de 400 000 exemplaires vendus. C'est un vrai best-seller, cet ouvrage. C'est devenu un ouvrage de référence. Vous attendiez un tel succès, Robert Vincent Joule?
Pas du tout, mais on ne s'en plaint pas. On approche le demi-million. Alors un grand merci à celles et ceux qui l'ont aimé et qui l'ont fait aimer en l'offrant, et puis peut-être en le conseillant aussi.
Oui. Comment vous expliquez ce succès?
J'ai envie de vous dire que plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Et nous avons écrit cet ouvrage précisément pour éclairer un public aussi large que possible sur les ressorts de la manipulation, répondant à une double question. Comment s'y prendre pour amener les gens à faire ce qu'on souhaite les voir faire ? Évidemment pour le meilleur, parce que nous nous adressons qu'à des honnêtes gens. D'ailleurs, si certains auditeurs étaient malhonnêtes, on va les inviter à éteindre la radio. Ça, c'est le premier objectif, aider les gens à répondre à cette question. Comment s'y prendre pour amener les gens à faire librement ce que je souhaite les voir faire? Et deuxième intérêt de cet ouvrage, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas honnête, déjouer les pièges de la manipulation lorsque des personnes malhonnêtes tenteraient d'utiliser certaines techniques à nos dépens pour nous amener là où on en veut. On ne veut pas forcément aller.
Donc c'est un peu de cette manière que vous avez répondu à la question « Faut-il porter à la connaissance du plus grand nombre toutes ces petites techniques de manipulation ?» C'est que les connaître, c'est déjà pouvoir défendre.
Bien sûr, hein. Et toutes les techniques dont on fait état, les chercheurs en ont montré l'efficacité dans des conditions extrêmement rigoureuses. Ouais. Donc ce sont des techniques dont l'efficacité est rigoureusement démontrée.
On est vraiment dans les sciences, hein, avec la psychologie sociale. Je crois que vous vouliez nous expliquer un peu plus précisément.
Oui, en deux mots, la psychologie sociale fait partie des disciplines psychologiques, au même titre que la psychologie cognitive ou que la psychologie clinique. Et c'est une discipline passionnante dans la mesure où elle nous éclaire sur la façon dont les gens, dans la vraie vie, certains diraient, dans la vie sociale, pensent, ressentent, décident et se comportent. Et elle nous montre que nos façons de penser, de ressentir, de décider, de nous comporter dépendent finalement du contexte dans lequel nous sommes placés, des situations dans lesquelles nous nous trouvons et finalement de nos insertions sociales. Et j'ajoute que c'est une discipline expérimentale au sens le plus traditionnel de ce terme, avec des exigences méthodologiques fortes et ce souci de l'administration de la preuve qu'on trouve dans toutes les sciences expérimentales, les chercheurs étant en mesure de produire dans des conditions contrôlées des effets mesurables, reproductibles et évidemment théorisables.
Alors par exemple, parmi les recherches que vous avez faites, c'est la façon de s'adresser à des enfants et d'obtenir le comportement que l'on voudrait qu'ils aient, par exemple de ne pas jeter les papiers de bonbons par terre. Comment on présente les choses pour avoir les résultats les plus
positifs? Alors là, je voudrais évoquer une recherche réalisée par mes collègues américains. C'est un enseignant dont la classe a été divisée en deux et il fait un cours sur l'ordre et la propreté. Et dans un cas, il termine son cours de façon traditionnelle, pédagogie traditionnelle. Je vous ai bien expliqué, mes enfants, vous avez bien compris. Il ne faut pas jeter des papiers par terre. Je compte sur vous, ne jetez pas de papiers par terre. Ça, c'est pour la moitié des élèves. Pour l'autre moitié, il va terminer différemment. Et il va utiliser, vous allez le voir, un étiquetage que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il fait exactement le même cours, mais il termine différemment. Il termine en disant « Vous devinez pourquoi j'ai fait ce cours aujourd'hui, les enfants ? Vous devinez pas ? Le programme, parce que moi je vous connais. » Et là intervient l'étiquetage. « Je sais que vous êtes des enfants propres. Vous ne laisseriez pas traîner des papiers par terre, n'est-ce pas ? » Et ensuite la classe continue, récréation et puis réfectoire. Et au terme du repas, des friandises, plusieurs friandises, enveloppées dans du papier. Grandeur et servitude du métier de chercheur, évidemment, les enfants ont quitté le réfectoire, emballé, et ont fait des tas de papiers, et ont fait ensuite des traitements statistiques. De façon systématique, il n'y en a moins dans un groupe que dans l'autre, évidemment dans le deuxième groupe.
C'est-à-dire les enfants à qui on a dit « je vous le dis parce qu'on m'a dit de vous le dire, mais je sais très bien que de toute façon vous ne jetez pas les papiers par terre, vous êtes des enfants propres, jette moins les
papiers. » Et de façon statistiquement significative.
C'est ce que vous appelez l'étiquetage. On voilà a mis sur les enfants virtuellement une étiquette d'enfants propres et sages, alors ils se conforment à cette étiquette qu'on leur a mis sur le front.
Tout à fait. Voyez, on récolte autant T2 ce qu'on a semé autant T1. Oui. Un autant bien semé. Hein. L'hiver est derrière et le printemps a déjà commencé à semer dans le cœur des hommes ses pétales colorés. Donc, semons bien. Hein. Semons bien. Les semences de l'avenir, les fleurs de l'avenir sont dans les semences aujourd'hui. Oui.
Ce type de raisonnement, ça, c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête quand on est professeur ou quand on a simplement à faire de la pédagogie avec des enfants. C'est un thème qui vous intéresse tout particulièrement et notamment la façon de réagir face à une mauvaise note ou à une bonne note. Vous dites, on peut, pour ne pas que ce soit un drame, pour que ce soit le plus productif pour la suite, on peut réagir de façon différente.
Oui, tout à fait. Regardez, là, vous évoquez implicitement deux principes. Le premier, c'est le principe de naturalisation, c'est dans ma nature. Et le second, c'est le principe de dénaturalisation, ce n'est pas dans ma nature. Prenons le cas d'un enfant qui a obtenu une note excellente, 18 sur 20. Que faudrait-il faire? Il faudrait d'abord dire, c'est très bien. Ensuite, nous sommes des êtres de chair et de sang. L'émotion, c'est pas rien. Il faudrait dire « tu m'as fait plaisir ». Et ensuite, interviendrait l'étiquetage. Ça m'étonne pas de toi. Tu vois, quand je vois une copie comme ça, ça te ressemble. Ça se sent que c'est toi. Vous rappelez téléphone? Hein, ça c'est... Voilà, comme quoi la communication peut ne tenir qu'à un fil. Mais imaginons, cette fois, que vous soyez confronté à un 2 sur 20. Que faudrait-il dire? 1, c'est mauvais. 2, je suis pas content. Mais 3, parce qu'on se grandit jamais à rabaisser, on va procéder évidemment à une dénaturalisation en disant « mais non, je parle pas de toi. Je parle pas de toi, je parle de ta copie. » Parce que ça te ressemble pas. Ne me dis pas que c'est toi. Et ayant séparé le producteur de la production, contrat, regarde-moi, parce que c'est pas toi, ça te ressemble pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour que la prochaine fois, ta copie soit bonne? Tu veux qu'on voit les exercices que tu pourrais faire ce week-end? Tu veux me faire des propositions? Et bien sûr, ensuite, contrat. Et j'ai envie de vous donner quand même un exemple, parce qu'on utilise tous, sans le savoir et sans le vouloir, quelquefois, un principe à la place de l'autre. Vous avez tous été le témoin, et toutes, certainement, le témoin de cette scène où le petit garçon vient de frapper sa petite sœur. Et le papa sort de ses gonds en disant « méchant !» Vous sentez que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Vous voyez le gamin questionner la valeur de vérité de ce que dit son père. C'est une éponge, il ferait faire exactement l'inverse. « Mais que tu as fait, file-t-on pas toi? T'es gentil comme tout, papa te connaît. Ça te ressemble pas. » Et ensuite, évidemment, le contrat. « Regarde-moi, tu vas me promettre de ne jamais plus frapper ta sœur. »
Votre livre est lu par les étudiants, il est très étudié justement dans les facultés et pas seulement de psychologie, aussi en éducation. Finalement, malgré ce terme un peu péjoratif de manipulation, on n'est pas contre mettre un peu de manipulation dans l'éducation?
Oui, mais vous avez vu l'oxymore, manipulation d'un côté, mais honnêtes gens de l'autre. Voilà, c'est parce ça qu'on peut faire évidemment de ce savoir issu de la psychologie sociale le meilleur pour le pire. Et ce n'est pas parce qu'on peut en faire le pire qu'il ne faut pas évidemment en faire le meilleur.
Dans un instant, Robert Vincent Joule répondra aux questions qui sont arrivées à son attention sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Et nous nous intéresserons de plus près aux techniques de manipulation de masse, comme celles qu'utilise le marketing ou la publicité. Vous pensez y être imperméable, vous pourrez être surpris.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain soudain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Je me retiens.
C'était Junior Panique sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Robert Vincent Joule, professeur en psychologie sociale et auteur du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, est l'invité de La Tête au Carré aujourd'hui. On va s'intéresser à présent au marketing et à la publicité qui évidemment connaissent bien des techniques de manipulation, des techniques que l'on pense éculées, notamment quand on pense à la publicité, mais finalement ça marche bel et bien.
Oui, c'est remarquablement efficace, mais là on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle l'inconscient cognitif, qui est très éloigné de l'inconscient psychanalytique. Je prends un exemple. Prenons deux boissons gazeuses qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le Pepsi-Cola et le Coca-Cola. Leur composition est quasiment identique, leur goût très proche. Et demandons à un échantillon de personnes de goûter ces deux boissons et de nous dire laquelle elles préfèrent. Mais en fait, on va diviser l'échantillon en deux groupes de personnes. Certaines vont goûter sans savoir ce qu'elles dégustent, les marques étant cachées, et d'autres vont goûter en sachant la boisson qu'elles vont boire, puisque cette fois les marques sont apparentes. Vous allez voir que les résultats ont de quoi faire réfléchir. Lorsque je bois, sans savoir ce que je bois, les marques étant cachées, je préfère le Pepsi-Cola. Mais lorsque je bois en connaissant la marque, cette fois c'est le Coca-Cola que je préfère. Et c'est assez déroutant, mais il y a plus. Ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui sont activées. Quand je ne sais pas ce que je bois, c'est la zone du plaisir qui est activée. En fait, le cortex préfrontal, ventro-médian. Et c'est le Pepsi-Cola qui l'emporte. Mais lorsque cette fois je sais ce que je bois, ce ne sont plus les zones du plaisir qui sont activées, ce sont les zones du jugement de valeur et de la mémoire. En l'occurrence, le cortex préfrontal dorsolatéral et l'hypothalamus. Et cette fois, c'est évidemment le Coca-Cola qui domine. Dont les résultats montrent que c'est le marketing qui nous fait aimer le Coca-Cola et non pas le plaisir que l'on peut prendre en le buvant.
Alors ce sont évidemment des données statistiques, ça ne marche pas à 100%. Il doit y avoir des gens qui, à l'aveugle,
oui,
préfèrent le Coca-Cola.
Mais
statistiquement ce que vous dites, le Pepsi.
Et les professionnels du marketing vont utiliser, évidemment, des techniques étudiées par les psychologues sociaux, et je pense à une d'entre elles en particulier, appelée le conditionnement évaluatif. Alors pour rester dans le domaine de la publicité, je vais prendre un exemple d'une recherche réalisée par Gorn. On demande à des personnes, précisément dans le cadre d'une recherche, de visionner une publicité pour un stylo d'une certaine couleur. Il est bleu ciel ce stylo. Et on diffuse un fond musical. Et la musique qui est diffusée, soit c'est une musique que les gens aiment, soit, pour l'autre moitié des sujets, c'est une musique qu'ils n'aiment pas. Et ensuite, pour les remercier, les personnes de leur participation à cette recherche, on leur offre un stylo. Mmh. Et ils ont la possibilité de choisir un stylo qui a la même couleur que celui qu'ils ont vu dans la publicité, ou un stylo d'une couleur différente. Eh bien, ils choisissent massivement, je dis bien massivement, dans des proportions de l'ordre de 80%, le stylo qui correspond, qui a la couleur du stylo qui figurait dans la publicité, lorsque la musique est agréable. Mais ils font exactement l'inverse, ils choisissent massivement un stylo d'une autre couleur lorsque la musique était désagréable. Vous voyez ce qu'est le conditionnement évaluatif, ce transfert de la valeur du contexte, de sa positivité ou de sa négativité, ici de la musique, sur la couleur ou sur l'objet qui lui est associée.
Ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'on est totalement inconscient de cette influence de la publicité. Vous dites que très souvent, après coup, on justifie les choix que la publicité nous fait faire, on les justifie de façon comme si c'était notre libre arbitre qui nous avait fait prendre ces décisions.
Oui, tout à fait. Et c'est également un des intérêts de cette recherche. On demande ensuite aux personnes qui ont choisi un stylo de telle ou telle couleur pourquoi ils ont choisi cette couleur-là. Mais ils répètent, mais parce que ce sont mes goûts. Parce que j'aime bien, alors soit par exemple le bleu ciel ou le beige. Donc les gens en appellent à leur goût alors qu'ils ont choisi la couleur, on le sait maintenant, par un processus inconscient qu'on appelle évidemment le conditionnement évaluatif. Et certains contextes peuvent avoir plus d'efficacité que d'autres. Et là, je pense à ce moment assez particulier.
Ouais.
Allez, un match international, l'équipe de France, de football ou de rugby, l'hymne national, c'est pas rien l'hymne national. Et le caméraman va zoomer sur le visage des joueurs, les uns après les autres, mais le plan est suffisamment large pour qu'on voit les logos, quelquefois même la marque qui figure sur le maillot des joueurs de football. Eh bien, il y a fort à parier que la Marseillaise ait exactement le même effet que les musiques agréables dans l'expérience que je viens de rappeler, à savoir un transfert de la positivité de l'hymne national sur les marques, sur les logos qui figurent sur les maillots des joueurs de l'équipe de France.
Est-ce que le fait de le savoir fait que, dorénavant, on sera moins sensible à ça ou est-ce que ça ne change rien de le savoir ?
Ça ne change pas grand-chose.
Ah oui, ça ne change
pas
grand-chose.
Bon.
Des questions sont arrivées à votre attention sur Internet. Vincent, qui vous entendait parler de pédagogie dans la deuxième partie de l'émission. Concernant la pédagogie pour les enfants, les effets dont parle votre invité sont très intéressants. Mais sait-on combien de temps ils durent dans les faits ? En gros, est-ce que quand on manipule, on obtient des résultats durables ? On pourrait aussi le poser sur la publicité. Est-ce que les publicités ont une incidence à long terme sur nos comportements ?
Oui, mais les publicités reviennent encore. Elles jouent sur un autre mécanisme qu'on appelle la simple exposition. Plus on est exposé à un produit, plus on finit par l'aimer. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis.
C'est aussi vrai pour les enfants.
Vous inscrivez, c'est vrai pour tout le monde, mais vous inscrivez les personnes dans un cours d'action et ensuite, il faut évidemment entretenir ce cours d'action. Il ne suffit pas de dire une seule fois « J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'honnête comme toi ou quelqu'un de serviable ». Bien entendu.
Une question de Pascal, peut-être un peu piège, surtout à quelques minutes des messages de la campagne présidentielle. Quelles sont les techniques les plus classiques employées par les hommes politiques pour arriver à leur fin ? Déjà, est-ce qu'ils les emploient, ces techniques de manipulation ?
Très certainement. Mais par exemple, ils le font tous, donc on peut effectivement s'en prendre parti, le dire assez volontiers. Lorsque vous signez une pétition, lorsque vous acceptez de prendre un tract sur un marché, ce sont des actes préparatoires, évidemment, puisque vous le faites dans un contexte de liberté, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas payé pour le faire, vous n'êtes pas menacé pour le faire.
Voilà, donc il y a déjà... Alors, il y a par exemple, si on nous met un tract dans la main, à partir du moment où on l'a pris en main, déjà, on s'engage.
Mais bien sûr, vous avez déjà un début d'acte préparatoire. Et puis, souvent, on touche sur les marchés. C'est même le lieu où les hommes politiques aiment bien toucher les gens. On a vu les effets du toucher tout à l'heure.
Les bons réflexes à adopter pour éviter de se faire embobiner ou se faire un peu moins manipuler. Vous en donnez quelques-uns aussi dans votre livre. Vous dites, par exemple, qu'il faut apprendre à revenir sur une décision. Pourquoi est-ce important ?
Si elle est bonne, il ne faut pas y revenir. Mais si elle ne l'est pas, sinon, bien sûr, il est très important d'être capable de revenir sur les décisions qu'on a prises et qui ne sont pas bonnes. Là, vous avez certainement en tête le phénomène d'escalade d'engagement qui montre lorsque plus on a investi en temps, en énergie ou en argent, plus on a tendance à persévérer dans un cours d'action alors qu'il peut s'avérer délétère et avoir des effets pervers. On cite souvent la guerre du Vietnam où le président Johnson a vu dans chaque revers militaire des raisons de s'engager plus avant.
Ouais. Quel autre conseil vous pourriez donner là, en une minute pour nos auditeurs qui
déjà de bien connaître les techniques décrites dans notre ouvrage. Ouais. Si on connaît bien le pied dans la porte, l'amorçage, la porte au nez, la crainte puis soulagement, le leurre, etc., etc., on aura moins de chances évidemment d'aller où on ne veut pas aller.
Sur la publicité et le marketing, vous dites aussi que toutes les publicités sur Internet qu'on a l'impression de ne absolument pas regarder, en fait, là aussi, elles nous influencent.
Bien sûr, c'est encore plus efficace lorsqu'on ne les voit pas. Parce qu'elles s'inscrivent dans l'inconscient cognitif. Et là, impossible de contre-argumenter, puisqu'on ne les a pratiquement pas vues.
Oui. Ce qui signifie qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser de ces publicités. On se croit assez imperméable à tout ça. En fait, on continue de se faire...
Oui, hein, prenez l'exemple de Coca-Cola. Hein. Voilà, c'est un très très bel exemple.
Merci Robert Vincent Joule. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est paru aux presses universitaires de Grenoble. Bon retour à vous à Aix-en-Provence.
Merci beaucoup.
Comme tous les mercredis, je vous annonce le documentaire de la case Science Grand Format de France 5, dont La Tête au Carré est partenaire. Ce soir, des révélations sur le naufrage du Titanic. L'iceberg ne serait que la partie émergée de la catastrophe. 100 ans après le drame, la version officielle est remise en cause. Titanic, la vérité dévoilée, c'est à découvrir ce soir à 20h50 sur France 5.